Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est tous les soirs, une heure, avec un ou une artiste ce soir, Jean-François Civadier.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bout à pépé, tépé.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Jean-François Civadier.
Quand en 1982, Henrik Ibsen écrit la pièce « Un ennemi du peuple », on dit que c'est l'homme le plus en colère d'Europe. Eh bien, sa colère est froide, ou quelque chose comme sage. Il semble dire « Voilà ce que je vois, ça fuit de partout, les eaux poisseuses remontent, et tout le monde pense à son bain bullant du soir ». Dans le salon de Peter Stockmann, en ce moment la scène du théâtre de l'Odéon à Paris, les lustres sont faits de bombes à eau et on se demande qui se les prendra sur la tête en premier. Père de famille, homme de médecine, Peter Stockmann a en tête de révéler un scandale de pollution des eaux dans une ville thermale qui précisément en vit. L'auteur norvégien, traduit par Éloi Recoin, montre comment chacun se dérobe devant l'intérêt général. Et vous, qui le mettez en scène, Jean-François Civadier, ne manquez pas de souligner tout ce qui, de la politique à la presse, à la majorité molle des spectateurs ou pas, à la place des femmes, trouve un éloquent écho avec nos temps contemporains. Bonsoir à vous et
bonsoir.
Bienvenue. Un ennemi du peuple se joue donc en ce moment au théâtre de l'Odéon jusqu'au 15 juin, c'est à Paris. Ensuite, vous serez en tournée avec la pièce. Et la troupe, d'octobre à février, dans quelle ville?
Alors, dans les villes suivantes, Lille, Châtenay-Malabry, Lyon, Dunkerque, Caen, Clermont-Ferrand, Perpignan, Strasbourg, Angers, Luxembourg, Marseille et Saint-Quentin-en-Yvelines.
Est-ce que vous êtes disponible toute la saison prochaine pour annoncer toutes les tournées de tous les gens avec
ouais,
cette voix-là?
Ouais, pourquoi pas.
Tous les jours, hein, c'est une émission quotidienne.
Absolument.
Hein.
Mais j'aime beaucoup la radio, alors c'est une chose que j'aurais aimé faire.
On vous rappellera avec joie, mais avant ça, si vous voulez bien nous décrire le décor auquel nous faisons face lorsque nous entrons au Théâtre de l'Odéon, à Paris en ce moment, puis dans toutes ces villes, quand vous vous y installerez,
ouais,
car il y a dans
c'est...
ce décor quelque chose de la tuyauterie de ce qui va suivre.
Ouais, c'est un espèce de... une sorte d'espace à la fois organique et mental. Moi, j'aime bien ça au théâtre, quand les espaces sont vraiment des matières à jouer pour les acteurs, des invitations à l'imagination du spectateur. Et donc là, évidemment, c'est un décor qui évoque beaucoup l'eau, mais d'une façon un peu mentale, puisqu'il y a ces bâches en plastique transparentes qui font penser à la transparence de l'eau, mais en même temps qui sont verticales, donc qui sont comme des murs. Et voilà, donc il y a tout un... C'est un espace très simple et en même temps qui excite beaucoup l'imagination du spectateur.
Oui, parce que vous dites que c'est simple et en même temps, il y a quand même une profusion de choses à quoi s'accrocher, si l'on veut, et qui disent, qui sont... J'utilisais le mot aussi éloquente, parce qu'il y a déjà presque beaucoup de discours, en fait, sur cette scène-là.
Oui, il y a beaucoup de discours, oui, effectivement, notamment une chose, il y a une phrase de Michel Mayer, le philosophe, qui dit que le drame ibsénien, c'est la tragédie grecque qui se démocratise et qui vient frapper la famille bourgeoise. Alors il se trouve que à un moment, comme on travaillait sur la scénographie, mon assistante Véronique Timsit a eu cette idée formidable de placer un gradin, qu'on construise un gradin au fond de la scène, finalement, qui nous rappelle qu'on est avant tout dans une espèce d'agora, enfin qu'on est vraiment chez les Grecs finalement, et qu'on a sur cet espace installé un salon bourgeois qui est d'une fragilité extrême, enfin qui va exploser très vite, puisque les figures qu'il y a dans Ibsen, notamment celle des deux frères, font vraiment penser à, par exemple, à Tréhétieste ou Théocle et Polynice dans la tragédie grecque. C'est-à-dire des gens qui sont avant tout des bêtes furieuses, et même s'ils sont habillés en costard cravate, quoi.
Et il n'y a pas que ça qui est fragile, puisque la représentation théâtrale en elle-même sera bientôt menacée. Et ce gradin en fond de scène, derrière des rideaux, mais des rideaux transparents, ouais, et Dieu sait s'il sera question de transparence, de rapport au dévoilement, à la vérité dans cette pièce-là, dit aussi que nous sommes au théâtre. Nous sommes dans l'agora démocratique. Mais au théâtre, très rapidement, Jean-François Sivadier, vous êtes dit que ce serait aussi le lieu de discuter de ça, pour vous, cette mise en scène. De qu'est-ce que c'est que d'être au théâtre ?
Alors finalement, cette, je sais pas si vous faites allusion à ce qui a l'air d'être une improvisation par Nicolas Bouchaud au quatrième acte, hein, quand il parle du théâtre et que, en fait, on n'avait pas forcément prémédité ça. Ce qu'on voulait surtout, c'est qu'à l'occasion du quatrième acte, en fait, c'est quand même une façon effectivement de parler du théâtre, mais que l'acteur lui-même sorte de son personnage comme s'il ne supportait même plus le carcan d'un texte classique ou d'une mise en scène. Et que lui-même trouvait qu'il y avait du mensonge partout, et justement dans cet espace du théâtre qui pourrait être un espace de la démocratie, que lui, Stockmann, voyait aussi du mensonge partout, y compris dans le rapport qu'il avait comme homme qui prend la parole sur une scène face à un public. Enfin voilà, il y a une espèce de mise en abîme comme ça sur laquelle on a pas mal déliré, mais après, je suis pas sûr que la pièce soit une pièce sur le théâtre, comme pourrait l'être, je sais pas, Hamlet, par exemple. Après, on peut dire que tous les autres grands auteurs écrivent sur les théâtres. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Ibsen a écrit cette pièce pour se venger, enfin, pour attaquer tous ceux qui l'ont persécuté, traîné dans la boue, à l'occasion de ses dernières pièces. Donc, c'est vraiment l'histoire d'un artiste blessé qui vient prendre la parole sur le plateau. Ibsen est plus ou moins caché par ce costume du docteur Stockmann. En réalité, je pense que les gens à l'époque n'ont pas été dupes et ont reconnu que c'était Ibsen qui parlait, quoi, au quatrième acte.
Et aujourd'hui, vous nous laissez quand même le loisir de mettre dans ce costume-là pas mal de gens. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas forcément Ibsen, les contemporains que nous sommes, mais on peut reconnaître pas mal d'autres personnes.
Oui. Et alors, évidemment, le coup de force d'Ibsen, c'est cette métamorphose incroyable, qui moi me mettait très mal à l'aise au départ quand on a lu la pièce. Cette métamorphose de cet homme intègre, honnête, ce lanceur d'alerte au-dessus de tout soupçon, qu'on suit vraiment avec bienveillance et pendant trois actes, et qui au quatrième acte va se révéler antidémocrate, profondément réactionnaire, enfin d'une extrêmement trouble. En tout cas, homme assez infréquentable, quoi. Et donc le trouble qu'il y a dans la pièce, puisqu'évidemment le grand truc d'Ibsen, c'est de poser des questions extrêmement troublantes et d'apporter aucune réponse, et de refiler le bébé au spectateur, si je peux dire. Là, les spectateurs à l'Odéon sont très troublés par le fait qu'ils doivent choisir, au fond,
leur camp.
Au fond d'eux-mêmes, leur camp. Et c'est pas si simple. Donc nous, en tout cas, notre obsession, c'était de pas faire de Stockmann un héros, et donc de pas en faire une victime au dernier acte, et de montrer enfin ce qu'il y a dans la pièce d'Ibsen, c'est-à-dire la double face de ce personnage très ambigu.
Alors précisément, parlons de la pièce d'Ibsen. On va écouter Éloi Recoin, traducteur.
On passe d'abord par une phase d'observation, où on essaie de comprendre la circulation des signifiants à l'intérieur de l'œuvre, la manière dont une métaphore se décline, se métamorphose au gré de l'œuvre. C'est vraiment un travail d'observation dans un premier temps qui permet de rester au plus près de la lettre du texte. Au fond, si j'essaye de définir mon projet de traducteur qu'à vous me présentiez comme un des principaux traducteurs d'Ibsen en France, mais en réalité il y en a beaucoup d'autres, et simplement il y a une singularité de ma démarche qui est liée aussi au fait que je suis lié au plateau, à la scène, au travail du théâtre, et que tout mon travail de traducteur est lié à, non pas asservi ou assujetti à l'entreprise d'un metteur en scène, mais lié à la projection dans l'utopie de la représentation, et que du coup ça me rend extrêmement attentif à ce qui à l'incomplétude initiale d'un texte de théâtre dont la résolution possible, les résolutions possibles, sont en attente des acteurs, du metteur en scène et du public. Et donc je suis dans cette volonté de m'en tenir à la lettre du texte, ne pas au fond faire entrer trop de hors-champ dans la problématique de la traduction.
Éloi Recoin, donc au micro de Mathieu Garrigou-Lagrange sur France Culture. Jean-François Sivadier, quand on entend Éloi Recoin dire que le premier travail est un travail d'observation de la lettre précise du texte d'Ibsen, est-ce que c'est aussi comme ça que vous procédez ?
Moi, comme metteur en scène, oui, parce que il faut essayer de savoir qu'est-ce que c'est que cette œuvre, qui est l'homme qui l'a écrite, pourquoi il l'a écrite, pour dire quoi, dans quelles circonstances, etc. Dès qu'on pense à l'auteur, quand on est metteur en scène, tout de suite c'est plus facile. Dès qu'on est obsédé par son travail, les raisons de son geste artistique, dès qu'on imagine un dialogue entre soi-même et l'auteur, dès qu'on arrive à faire de l'auteur quelqu'un de vivant, ça devient beaucoup plus simple. C'est-à-dire penser à l'autre au théâtre, c'est toujours beaucoup plus simple que de penser à soi.
Mais donc c'est ça va à l'encontre de ce que disait à l'instant Éloi Recoin, qui dit moi je ne fais rentrer aucun hors champ, je me tiens à ce qui est écrit et mon boulot c'est le texte. Vous vous dites c'est le texte,
ah,
et
oui.
En fait le texte ouvre tout le reste.
Non, alors là je parlais effectivement de savoir qui était l'auteur, mais en ce qui concerne le texte, oui, moi je ne pars que du texte et rien que le texte, même si on a fait des rajouts dans Ennemis du peuple, on peut y revenir, mais je considère le texte comme une partition musicale avec des moments qu'on a le droit de trouver plus faibles, des moments forts, une partition chorale, particulièrement en ce qui concerne cette pièce d'ailleurs. Je pars de ça comme un matériau, j'essaie de dans ma tête de l'élargir au maximum. Voilà, moi je parlais, voilà, donc il y a ça, il y a aussi connaître la personne qui l'a écrite, mais voilà, en fait c'est presque deux choses séparées finalement.
Vous le rencontrez quand, ce texte-là, Un ennemi du peuple ?
Oh, je ne sais pas, j'ai dû tomber dessus un peu par hasard, j'ai vu la mise en scène de Thomas Ostermayer que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais lu le texte bien avant et je ne sais plus pourquoi. Enfin, après, je suis vraiment amoureux d'Ibsen depuis très longtemps, en fait. J'ai toujours eu envie j'ai toujours été fasciné par cet auteur. Donc,
ça tient à quoi ?
Ça tient, quand j'essaie d'analyser le truc, c'est que je me suis dit qu'à chaque fois que j'avais lu ou vu une pièce d'Ibsen, j'ai toujours eu l'impression que dès le départ, l'auteur me prenait par la main et qu'il allait m'emmener dans des zones de l'inconscient pas forcément agréable, mais d'une manière extrêmement jouissive. C'est une impression que j'ai vraiment au cinéma devant certains films de Bergman, par exemple. C'est-à-dire que ça fait peur, Ibsen. On a peur, dès le début on a peur. Peut-être un peu moins dans L'ennemi du peuple, parce que c'est plus une comédie, mais franchement, quand on commence Les Revenants ou Rosmer Solm et tout ça, on est totalement flippé, quoi. Et en même temps, on part dans une espèce de délire où la psychologie est toujours fantastique. D'ailleurs, c'est ça que j'aime dans Ibsen, c'est que le réalisme est toujours transcendé par une espèce de côté fantastique, irréel, un peu cauchemardesque comme ça. Et donc on va très loin, très profond dans l'inconscient, mais de manière très jouissive. Ouais. Ouais.
Et alors comment vous procédez si vous dites, Jean-François Sivadier, ça fait en fait un moment que j'ai lu cette pièce, ça fait un moment que je fréquente cet auteur, ouais, que j'ai envie de le monter. Qu'est-ce qui fait, en dehors des calendriers de production théâtre,
ouais,
que vous vous dites, c'est maintenant en fait, cette pièce-là c'est maintenant ?
En tout cas, c'était pas du tout l'actualité. C'était pas du tout à cause de l'actualité. Donc il y a un an et demi que j'ai décidé de faire ça. C'était vraiment une intuition. C'était tout à coup, le moment où on se dit voilà, on va faire ça, c'est toujours très très mystérieux. Vraiment, hein.
Parce que c'est quand même ça, plus que tout le reste qui est possible. Vous avez la chance de travailler avec le matériau que vous choisissez aujourd'hui.
Ouais.
Donc vous pourriez faire d'autres choses.
Oui.
Et c'est ça qui se passe. C'est Ibsen qui débarque.
À partir du moment, moi j'ai envie de faire tout un tas de choses, hein. Et puis à un moment où il faut choisir, il faut bien choisir, ce qui est en général assez un cauchemar pour moi, de devoir dire ok, on va faire ça, donc on va passer 2 ans voire 3 ans avec un auteur, une œuvre, et on va faire entre guillemets que ça. Donc voilà, le choix est toujours très important, mais comment dire, je ne sais pas ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit c'est ça. On a une, par exemple, il y a longtemps quand j'ai monté La Vie de Galilée, le désir de monter cette pièce était avant tout à cause d'une scène qu'il y a dans la pièce. Et des fois, il suffit d'une réplique, d'une scène, d'une chose qui nous attire et qu'on va élargir et qui voilà. Et là, dans l'ennemi du peuple, je sais pas, mais je pense qu'il y avait une chose qui me plaisait énormément, c'est l'histoire de la famille qu'il y a chez Ibsen. On part vraiment toujours de la famille, comme chez Tchekhov, comme dans la tragédie grecque, etc. Et que il y a
là, il faut rappeler peut-être donc ses docteurs,
ouais,
sa femme
ouais.
Catherine, sa fille qui a un rôle très important,
ouais.
Le frère du docteur qui est le préfet,
ouais.
Donc le beau-père, ouais. Est vraiment quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la ville, des intérêts de la ville, des intérêts politiques, mais tout ça se noue dans des intimités,
dans des rapports
affectifs, ouais. Dans des questions
d'héritage. Et même les rapports qu'il a avec les journalistes, c'est un peu comme dans Tchekhov, c'est-à-dire la maison du docteur Stockmann à l'acte 1, c'est vraiment là, tout le monde rentre comme dans un moulin. Donc en fait, on a vraiment l'impression d'avoir une petite communauté qui se connaît très bien et cette manière de travailler sur l'intime et sur les affects aussi beaucoup, c'est une manière de rendre universel le propos en fait. Parce que je pense que ce qui rend extrêmement concret et là où les gens sont touchés ou émus, c'est qu'il est toujours question d'une famille, en fait.
Ce que vous disiez, c'est un drame bourgeois qui montre combien tout est fragile. Mais en fait, tout est fragile aussi parce que c'est le lien d'une femme à un homme qu'elle aime, et vice-versa, à la fille.
Ouais.
C'est aussi cette fragilité-là.
Ouais. Mais c'est fou, hein. Mais c'est par exemple, ça fait le même effet dans le Tchekhov, par exemple. Dès qu'on entend sur un plateau ma sœur, ma mère, ma femme, mon fils, mon frère, etc., immédiatement, il y a un effet d'empathie du spectateur avec le. Enfin, il y a une accroche qui se fait autrement que si les rapports sont pas les mêmes, que s'il n'y a pas des rapports de famille. Dans le Tchekhov, évidemment, c'est flagrant, mais là, ce qui est très beau, par exemple, dans les scènes entre les deux frères que Ibsen a écrit dans Un ennemi du peuple, c'est...
Donc
le préfet...
Qui a des intérêts divergents de
voilà,
celui
de son
frère.
Voilà, qui est vraiment l'homme de pouvoir, et le docteur, qui est vraiment le scientifique. Et l'affrontement, la guerre fratricide qu'il y a entre les deux, est d'autant plus forte qu'on sent qu'il y a des liens... familiaux, donc qui où il y a des non-dits forcément et où il y a une enfance derrière. Ils ont un passé, voilà. Donc ça c'est très très beau quoi.
Tout à l'heure vous disiez finalement j'aime Ibsen parce que c'est là où ça fait peur. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que la famille, comme sous-bassement de la politique, est un endroit où ça fait peur.
Oui. Et ce qui est fort, alors que moi j'aime pas trop le théâtre psychologique, mais ce qui fait peur dans Ibsen, même si c'est pas une écriture finalement basée tant que ça sur la psychologie, c'est la manière dont on rentre dans l'univers, dans la pensée de quelqu'un et qu'on voit au départ la petite partie de l'iceberg et que quand on découvre ce qu'il y a derrière, ça devient monstrueux, quoi.
C'est souvent que les gens disent j'aime pas trop le théâtre psychologique ou la littérature psychologique et j'arrive pas très bien à comprendre ce que ça veut dire.
Non, par exemple, quand je travaille avec des acteurs ou des jeunes acteurs et tout ça, ce que je leur dis en général, c'est que la psychologie a tendance à tuer, à mettre en scène d'abord l'intellect au lieu du corps et de la pensée, etc. C'est-à-dire que dès qu'on dès qu'on essaie d'expliquer les choses par la psychologie ou par une espèce de logique du comportement, en fait, on fait que tuer le théâtre, quoi. Enfin, on tue l'espace de l'imagination du spectateur. Quand on essaie de régler les choses d'une manière intellectuelle, il y a rien de pire. Nous, c'était un peu notre hantise dans Un ennemi du peuple. Il y a rien de pire que deux acteurs qui font la conversation sur un plateau. C'est-à-dire qu'au théâtre, on ne peut pas converser, on ne peut pas faire de la conversation. On échange de la parole, mais c'est ça, c'est pas de la conversation. C'est pas des échanges d'idées. On voit jamais Si on discute sur un plateau de théâtre, le théâtre est mort. Ce qui est intéressant, c'est quand on échange la parole, quand on prend la parole comme une matière presque extérieure à soi, et quand on en fait l'outil d'un espace et d'un temps. Enfin,
donc d'abord le corps ou d'abord la voix alors?
Oui.
Et tout. D'abord les déplacements et d'abord l'espace.
Alors, vous posez la question de comment nous on travaille, par exemple.
Oui, par exemple.
Ouais, ouais. Bah, moi, je suis un obsédé de l'espace. Donc, effectivement, tant que j'ai pas l'espace dans ma tête, ou tant que j'arrive pas à rêver un espace qui me ressemble, que je vais découvrir et qui va me parler de moi, de ce que j'ai envie de faire sur un plateau et tout ça, je vais avoir du mal à engager la suite. Mais oui, on part énormément de l'espace, du texte, des mouvements du texte. Par exemple, c'est intéressant de voir dans un texte qu'on peut décider de mouvements, de grands mouvements dans la pièce qui correspondent pas forcément à une découpe en actes.
Comme s'il y avait un opéra caché dans une pièce de Ibsen.
Oui. Alors là, vous dites le mot opéra, mais effectivement, je pense énormément, sans doute parfois trop, à ce qui va tout de suite, comme à l'opéra, pouvoir transcender la parole, les acteurs, etc. Tout ça le plus vertical possible, ce qui est extrêmement difficile avec une pièce comme celle d'Ibsen, mais c'est-à-dire que je cherche souvent, au fond, sur un plateau, à comment on va partir avec les spectateurs, au même niveau que les spectateurs, et comment on va pouvoir les emmener dans un endroit de liberté, de folie, de plaisir et de pensée. Enfin, voilà.
Bonjour, bonjour. Entre. Si c'est vrai, j'entre. Autrement, je m'en vais.
C'est quoi, est vrai?
Cette histoire folle, là, à propos de l'eau. C'est vrai, ça?
Oui, c'est vrai.
Pétrin est passé me voir en allant à l'école. Au début, j'ai cru qu'elle se moquait de moi. Bonjour, monsieur. Mais bon, c'est pas le genre de Petra.
Comment avez-vous pu imaginer une chose
pareille? Oh, il faut se fier à personne, hein. On peut se rendre ridicule aux yeux de tous avant même de s'en apercevoir. Donc c'est vrai.
Mais oui, c'est vrai, sans aucun doute. C'est pas une vraie chance pour la ville.
Ah, une chance pour la ville.
Que j'ai fait cette découverte à temps.
Ouais, hein, dis donc, stop mal. Jamais j'aurais cru que vous joueriez un tour pareil à votre frère,
Un tour pareil?
Mais papa!
Non mais attends, comment c'était déjà? Il y aurait des bêtes qui se sont introduites dans les canalisations, c'est ça?
C'est ça, une bactérie.
Il y en aurait des quantités, me disait Petra, une multitude faramineuse.
Il pourrait y en avoir des centaines de milliers.
Mais on peut pas les voir, c'est ça?
Les voir, c'est impossible.
Ah nom de Dieu, Stockman! Ça, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue de vous.
Mais je comprends pas ce que vous voulez dire.
Non, mais vous croyez vraiment que vous allez faire avaler ça au préfet?
Nous verrons bien.
Non, mais vous le croyez fou à ce point-là?
J'espère bien que c'est la ville entière qui sera folle à ce point-là.
La ville entière? Mais c'est bien possible, après tout. C'est ce qu'il leur faut. Ils l'ont bien mérité. Ils se pensent tellement plus intelligents que nous autres. Les vieux. Ils m'ont chassé comme un chien du conseil municipal. Ouais, je le dis. Comme un chien. Ils ont tous voté contre moi. Mais ça va se retourner contre eux. C'est bien, Stockman. Continuez à leur faire vos singeries, là.
Mais beau-père...
Non, mais continuez, je vous dis. Si vous y arrivez, allez faire tourner en bourrique, là, le préfet, sa clique et tout ça. Allez, je donnerai 100 couronnes pour les pauvres.
Le beau-père de Peter Stockman qui fait son entrée rugissante sur le plateau du Théâtre de l'Odéon en ce moment à Paris, Jean-François Civadier. Vous disiez tout à l'heure, quand deux acteurs conversent sur le plateau, le théâtre est mort. Il faut prendre à bras-le-corps la parole comme une matière, musicale ou autre, sculpturale. C'est vraiment très frappant dans la direction si on parle comme ça, d'acteurs et d'actrices sur le plateau. Vous avez dit quoi ? Vous leur avez dit quoi ? Comme manière de s'emparer de la parole pour qu'on en arrive à ça ou à d'autres moments où, j'ai pas le bon mot, mais peut-être tout est un cran au-dessus, en fait.
Je leur ai pas dit grand-chose, en fait, puisqu'il se trouve que là aussi, sur la scène de l'Odéon, c'est vraiment une famille. C'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Pas tous, mais certains, pas mal, ont déjà travaillé ensemble. Donc il y a quand même un esprit de famille qui passe dans le spectacle. Mais en général, donc...
Donc ça veut dire qu'ils savent.
C'est-à-dire des gens comme ceux qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire Cyril Botorel et Nicolas Bouchaud, j'ai déjà beaucoup travaillé avec eux. Donc effectivement, ils savent comment engager la parole sur le plateau, de manière à en faire quelque chose de puissant. Et si j'essaie de savoir ce que c'est que cette chose, je me dis qu'au fond, il s'agit avant tout de poser des actes, que prendre la parole, c'est poser un acte, c'est-à-dire c'est comme poser une chaise sur un plateau ou comme faire un geste pour un danseur, c'est-à-dire on pose un acte et l'acte va résonner.
Ce que l'on peut faire, hyper délicatement, quasiment silencieusement,
ouais.
Je pose mon stylo.
Voilà, voilà.
Et je m'engage vraiment dans le fait de poser mon stylo.
Exactement.
Rose. Mais je peux aussi poser mon stylo.
Voilà, mais vous le faites vraiment. Et c'est ça qui va permettre de créer du théâtre, c'est-à-dire que tout à coup, quelqu'un propose un geste, une démarche, une façon de prendre le texte, un mot, il va vraiment poser son acte, quitte à se dire après « Ah mince, j'aurais pas dû faire ça ». Mais au moins la chose va exister et permettre à quelque chose d'autre d'arriver. Je suis assez frappé parce que hier j'ai vu un travail comme ça au théâtre et il y avait un comédien que je connais très bien et qui ne parlait pas au début, qui faisait la langue des signes. Il avait appris la langue des signes. Et c'est incroyable quand un acteur ou quelqu'un qui fait la langue des signes, à quel point sa précision, enfin la précision des gestes est extraordinairement théâtrale, extraordinairement puissante. Et là, en l'occurrence, ça l'était, puisqu'on voyait quelqu'un qui avait appris à faire ça et qui était extrêmement bavard, mais simplement sans texte, avec le mais simplement comme il posait vraiment ses actes, tous ses gestes, il était beaucoup plus précis que si peut-être il avait fait autre chose de beaucoup plus commun pour lui. Et quand on travaille avec, quand je travaille en atelier avec des acteurs, donc effectivement pas ceux que je connais depuis très longtemps, mais je leur dis toujours ça, d'imaginer que quand ils rentrent sur le plateau, c'est exactement comme si un peintre dessinait un coup de pinceau sur une toile blanche et qu'ils entrent sur le plateau et qu'ils dessinent déjà une ligne, qu'ils dessinent un acte. Je parle pas de quelque chose de formel, hein, mais c'est simplement...
dans l'intention.
Voilà, de ne pas faire les choses à moitié. Je prends toujours l'exemple des danseurs qui, s'ils font un geste à moitié, ils se cassent la figure. C'est-à-dire, pour trouver leur équilibre, il faut que leur corps soit totalement engagé dans le... voilà.
Notamment pour la comédienne qui interprète le rôle de Catherine, la femme de Stockman, il y a quelque chose d'extrêmement chorégraphié, c'est comme si elle dansait sur le plateau, mais vous avez prononcé ce mot-là finalement qui est peut-être le plus juste, Jean-François Sivadier, qui est le mot théâtral. En fait, c'est peut-être ça qui se joue, c'est peut-être une parole théâtrale. Quand la fille vient s'approcher de son père pour lui demander d'avoir du courage, c'est vraiment théâtral.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire au sens où peut-être dans la vie, on ne demanderait pas comme ça.
Ouais, mais effectivement, dans la vie, quoique, franchement, dans la vie, il y a des moments où on est incroyablement théâtraux.
C'est clair.
C'est-à-dire où on se met à jouer ce qu'on pense vraiment. C'est pour ça que j'adore voir parler les hommes politiques, parce qu'ils sont condamnés, eux, à être des grands acteurs. Ils ne le sont pas tous, malheureusement. Enfin, pour eux. Mais ils sont obligés de... Il suffit pas d'être sincère en politique. Il faut être convaincant. Donc, il faut faire rêver. Donc, c'est vraiment comme un travail de comédien. Mais effectivement, moi, j'aime affirmer l'idée qu'on est au théâtre et que à certains moments, les acteurs font du théâtre et que c'est dans le contrat avec les spectateurs et que ça n'empêche pas que ce qui se passe et un certain rapport avec la réalité.
Et n'entrave en rien la possibilité de l'empathie et de la projection.
Exactement. C'est-à-dire que je pense que plus on affirme qu'on est en train de jouer, plus la vérité peut advenir.
Mais c'est simplement en ça, tout à l'heure, que je vous disais que c'est peut-être pas un texte, sinon une mise en scène qui parle de ce que c'est que de faire du théâtre. C'est-à-dire tout moment, on me semble qu'on est en train d'affirmer « Ok, c'est du théâtre, vous avez bien vu, c'est du théâtre.
Oui, »
Et en fait, faire du théâtre, c'est pas n'importe quoi.
Oui,
ça a des impacts sur nos émois, sur nos décisions, sur notre façon d'être là.
Oui. Mais tout à fait, je suis entièrement d'accord. Non, mais c'est vrai. Stockman, par exemple, mais pas que lui, fait énormément de théâtre dans la pièce et se fait du théâtre à lui-même. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un côté évidemment Alceste du misanthrope de Molière dans la pièce d'Ibsen. Et Alceste de Molière, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire « je suis sincère et je ne joue pas la comédie ». Et disant ça, il se joue énormément la comédie et où on voit que la sincérité n'a rien à voir avec la vérité au théâtre.
C'est tout l'objet de la pièce, hein. Par ailleurs, hein, Peter Stockman qui détient une vérité de pollution des eaux dans une ville thermale qui est censée soigner les gens, il a beau détenir cette vérité et penser la détenir sincèrement, c'est pas forcément ça qui le fera être le meilleur des hommes. En parlant du côté théâtral, ça fait de vos comédiennes et de vos comédiens des gens dans la dépense.
Oui.
Pendant ces, quoi, 2h40, à peu près, de théâtre. Et j'ai beaucoup pensé à cette idée-là de bataille, une forme de dépense comme ça, totale, jouissive, généreuse, qui est peut-être la chose la plus généreuse, mais foncièrement généreuse qui se passe quand tout le monde dans la pièce fait l'inverse de ça petit à petit, devient l'inverse de la générosité, de la pensée pour les théâtres. Ben, le théâtre, c'est ça, quoi. Ça va à l'encontre de ce que Ibsen décrit comme repli.
Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais le mot dépense, effectivement, c'est un mot que j'adore pour les comédiens. Parce que c'est quand on n'a plus rien, quand on s'est totalement dépensé, ou qu'on est le plus heureux. En fait, comme comédien. Et c'est quand on a... Donc, effectivement, il faut avoir un terrain suffisamment large pour pouvoir éprouver cette dépense et se donner sur le plateau. Vous parlez aussi d'un combat. Moi, je pense qu'effectivement, dès qu'on se dit qu'on rentre sur scène pour se battre contre quelque chose ou quelqu'un, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on engage une énergie et on sait où placer son énergie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on vient non pas séduire un public, mais d'une certaine manière se battre contre lui ou contre soi-même ou se battre pour quelque chose, mais que l'idée de combat est très importante.
Et vous voulez que les comédiennes et les comédiens soient heureux sur le plateau?
Oui, parce que je pense que la finalité finalement du plateau, si tant est qu'enfin. Quand on fait du théâtre avec des acteurs, c'est que l'espace que vont ouvrir les acteurs dans la tête des spectateurs, l'imagination, l'espace énorme qui vaut tous les décors du monde, cet espace-là est infini. Moi, il m'est arrivé d'aller voir des spectacles il y a très longtemps et je me souviens des acteurs, je me rappelle à peine du décor, mais je me souviens que l'espace qu'a ouvert devant moi tel ou tel acteur, même il y a 20 ans, me fait encore rêver. Donc effectivement, je pense que le bonheur des acteurs et le fait qu'ils se sentent absolument responsables sur le plateau, non seulement de ce qu'ils font, mais de ce que font les autres, et qui, quand ils sont... je pense que les acteurs sont aussi très heureux quand ils sont dans un projet qu'ils aiment de A à Z, qu'ils peuvent défendre... voilà.
L'obstination, elle est en dehors de l'obstination. Le travail se fait aussi comme malgré soi. Quand j'ai eu 10 ou 11 ans, quelque chose s'est désigné en moi. Je veux dire, je ne me suis pas senti désigné par quelque chose, mais quelque chose s'est désigné en moi. Et je savais que ça avait à voir d'une façon ou d'une autre avec l'écrire, avec une certaine façon de vivre, mais alors... Quasiment le temps de mettre le doigt dessus, c'est-à-dire le temps de mettre le doigt sur ce que c'est quasiment 20 ans. C'est-à-dire entre l'écrire, puis ce qu'on pourrait appeler le, moi, ce que j'appelle s'occuper d'acteur, par exemple, hein, et pas faire du théâtre, ça voulait rien dire pour moi. De ce travail de l'altérité, alors c'est très étrange parce que j'en suis encore là maintenant, c'est-à-dire toute la solitude que tu connais, qu'on connaît, qui est nécessaire à l'écrire, et de l'autre côté, tout ce qui fait que le monde, il m'a jamais échappé. Le monde, il a tout le temps été, il a tout le temps été avec moi, puisque j'étais en plein dedans. Hein, c'est une phrase de Char que je vais mal redire, mais qui était, je l'avais pliée dans mon portefeuille, et puis elle s'ouvrait quand tout d'un coup j'habitais quelque part. Et je me souviens de la fin, je me souviens plus exactement, mais ça disait. En attendant ce jour, ou car il viendra ce jour, je me souviens plus, prévu de haute pluie, de limon vert, qui viendra pour les brûlants et pour les obstinés. Et ça, c'était vraiment et c'est drôle parce que je me souviens plus si le viendra est avant, après, mais je sais que c'était ça. Les hautes pluies et les limons verts, pour moi, c'était le fleuve. C'était mon fleuve d'enfance. Et avec ce qu'il a de dolent, avec ce qu'il a de furieux et de dolent en même temps. Et puis cette opposition avec brûlant et obstiné, qui était ce qu'il fallait vivre si on voulait simplement ne pas mettre la tête justement dans le courant du fleuve et s'y noyer. C'est en permanence le fait de penser qu'on n'aura jamais le temps. Et ce jamais le temps, tout d'un coup, finit par créer des espaces de temps qui sont tout à fait particuliers, qui peuvent être extrêmement violents, mais qui peuvent être aussi des moments de désespoir absolu. Alors là, il est très long. Hein, dans lequel tout fuit, tout est comme à perte, et c'est sûrement là que le meilleur du travail se fait. Mais ça, il faut pouvoir l'accepter. Il faut pouvoir accepter cette espèce de dépression consécutive à tout ce qu'on arrache, à tout ce qui s'arrache de soi.
Juste avant la voix de Brigitte Fontaine, c'était la voix de Didier Georges Gabilly dans une archive de 1994 diffusée dans les Nuits Magnétiques de France Culture. Jean-François Sivadi, avec cette phrase-là, que j'espère ne pas déformer, il faut accepter la dépression consécutive à tout ce qui s'arrache de soi, dit-il. Et votre spectacle se termine sur une phrase non terminée qui dit quoi ?
L'homme le plus fort du monde, c'est l'homme le plus seul.
Non, et après, qui dit pas ça ?
Ah.
L'homme le plus fort du monde, c'est l'homme le plus... Et rien, non ?
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Le texte d'Ibsen se termine par « L'homme le plus fort du monde, c'est l'homme le plus seul ».
On a voulu remettre cette phrase et la faire décliner comme ça plusieurs fois par Nicolas Bouchot. Puisque on voulait absolument la mettre en critique et pas la mettre comme un slogan comme ça à la fin de la pièce qui serait... qui serait une espèce de slogan. On voulait absolument la mettre en critique et voir aussi l'auteur en train d'essayer d'écrire cette phrase, et puis l'acteur en train d'essayer de la jouer et donc la mettre en critique. C'est-à-dire qu'on laisse au spectateur le choix de la trouver très belle. D'ailleurs, beaucoup de gens la trouvent très belle. Et à d'autres, de la trouver très dangereuse. Voilà. Et aussi, on a fait en sorte que Stockmann veuille redire une dernière phrase, une autre phrase à la fin pour montrer qu'au fond il s'enivrait tout le temps lui-même de ses propres paroles et que c'est quelqu'un qui parlait trop et qui parlait avant de réfléchir .
Mais c'est aussi le propre d'une forme de pratique artistique ou de la création. Quand on entendait Didier Georges Gabilly parler de la solitude nécessaire à l'écriture ou au théâtre dans l'absolu, mais aussi de l'obstination comme quelque chose de fondateur. Bon, c'est le cas de Peter Stockmann, mais c'est aussi le cas de tous les gens qui décident d'écrire ou de mettre en scène. Jean-François Sivadi.
Tout à fait. Tout à fait.
Il y a quand même
ou
aussi,
jouer d'ailleurs.
Ou de jouer. Il y a quand même aussi un réseau de résonance entre cet homme qui veut à tout prix dénoncer.
Tout à fait.
Et puis toute l'autre énergie déployée sur le plateau qui est la vôtre.
D'ailleurs, on peut imaginer à quel point Ibsen se sentait seul dans son exil à Rome, là, quand il a écrit Un ennemi du peuple. Et voilà, enfin, bref. Mais oui, tout à fait, ça correspond tout à fait à une parole qui est une parole d'artiste, donc d'un auteur en l'occurrence, mais qui peut, qui concerne énormément de. Enfin, c'est vrai que quand on crée, qu'on soit chorégraphe, écrivain ou metteur en scène, on est dans une solitude extrême quand on travaille. Et moi, j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré et de pas avoir l'impression de travailler seul, puisque je travaille beaucoup avec Nicolas Bouchot et Véronique Timsit quand on prépare les spectacles ensemble. Mais quand même, la partie du travail pour un metteur en scène où on est avec les comédiens sur un plateau est toute petite par rapport à tout le temps de préparation et où on est tout seul avec son rêve. J'ai vu une interview extraordinaire de Pina Bausch où elle parlait de l'horreur de créer, de devoir créer. Et elle disait à chaque fois, je me dis, j'arrête, c'est pas possible, c'est trop difficile. Et dès que le spectacle est terminé, je suis en train de penser au suivant, quoi.
Et c'est de l'ordre de l'obstination, pour reprendre ce mot-là, qui était prononcé par Didier Georges Gabilly.
Oui. Il y a de l'obstination, mais il y a surtout une nécessité là-dedans, évidemment. On a. Par exemple, quand je vois le spectacle là, tous les soirs, ce qui est difficile, j'ai tout de suite envie d'y retourner maintenant, tout de suite sur un plateau. Mais de pas attendre un an ou un an et demi.
Mais pour faire autre chose.
Oui, ou pour continuer tous les textes. Quand on choisit une pièce, par exemple, c'est toujours quand même un prétexte à faire toujours la même chose. C'est-à-dire à faire son métier, à essayer de savoir ce que c'est que le théâtre, voilà, à se poser les questions artistiques, etc., à travailler avec des comédiens, et on cherche à chaque fois le meilleur prétexte pour, au fond, toujours poursuivre le même...
Donc là, quand ils sont sur scène et qu'ils jouent, il et elle,
ouais.
C'est un travail qui a moins lieu pour vous. Vous êtes moins en train de travailler. Vous êtes moins en train de vous demander qu'est-ce que c'est le théâtre. Vite, quand est-ce que j'y retourne?
Alors, il y a deux choses. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que eux, ils sont dans un temps, pendant qu'ils jouent, qui n'est pas le mien. C'est-à-dire que ça se voit toujours quand ils sortent de la représentation, ils sont crevés, heureux, détendus, etc. Et moi, j'ai passé 2h30 en coulisses à ne rien faire, entre guillemets, parce que je fais d'autres choses, et donc, physiquement, je ne suis pas du tout dans le même état. Donc, il y a quelque chose qu'ils ont fait, qu'ils ont partagé, qui, moi, ne me concerne malheureusement pas. Enfin, voilà. C'est intéressant de quand on voit soi-même ses propres spectacles, par exemple, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de regarder ses propres spectacles. Bergman disait que pour lui la plus grande torture ça aurait été qu'on l'attache sur une chaise et qu'on l'oblige à regarder tous ses films. C'est assez drôle, mais c'est
assez drôle.
Mais quand on regarde ses propres spectacles, on découvre des choses sur soi-même. Par exemple, je ne sais toujours pas pourquoi, par exemple, au théâtre il y a des matières qui me touchent plus que d'autres dans la scénographie. Pourquoi j'imagine que forcément cet acteur à un moment donné va rentrer du côté jardin et pas du côté cour, et pour moi ce serait totalement impossible d'imaginer qu'il rentre côté cour. Donc il y a des histoires d'équilibre. À certains moments, effectivement, on est comme un peintre en train de regarder un tableau, mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas pourquoi tout à coup on est touché par des moments et moins par d'autres, et pourquoi tout à coup on a l'impression d'avoir atteint quelque chose un peu miraculeusement, ou pas d'ailleurs, mais avec du travail, et pourquoi à d'autres on se dit ah ben non, ça s'est complètement planté, voilà, je ne sais pas, et je crois qu'on sait jamais, en fait. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Jean-François Sivadier. Quoi,
À ce que j'ai entendu de ces spectateurs véritables, disant parfois, tiens, j'aurais bien aimé intervenir, mais j'ai pas osé, ou bien au moment où j'aurais pu intervenir, bah voilà, c'était déjà passé à autre chose. Évidemment, enfin, moi, ce qui me semble, c'est que bien sûr, c'est écrit, c'est une écriture de spectacle, donc ça va vite, ça va plus vite que dans la vie. Dans la vie, on a le temps, ça dépend des fois, mais on a un peu plus le temps. Il y a un peu plus de temps mort, de temps creux, de où on peut prendre le micro ou la parole. Là, c'est pas possible. C'est un autobus lancé à 100 à l'heure. Il me semble. Ce spectacle. Donc spectateur, on est à la fois agité par tout ce qui se passe autour de nous. On est certainement, à des moments, on peut être agacé. Il y a des gens qui sont très agacés, mais on peut être excité et avoir envie, en quelque sorte, de s'exprimer, puisqu'on est à la place, dans la position, dans la même position que ceux qui s'expriment. Donc on est sollicité à le faire. On s'est posé la question. Avant la première vraiment du spectacle, qu'est-ce qui allait se passer. On s'est dit, mais les gens vont vraiment, enfin, nous on s'imaginait qu'on allait produire plein de prises de parole, et puis finalement ça n'est pas arrivé, quoi. C'était pas fait pour, donc il n'y a pas de déception de ce point de vue là mais oui, enfin, moi, la raison principale pour laquelle tout ça n'arrive pas, je pense que c'est la question de la vitesse.
C'est le metteur en scène Joël Pommerat qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, Jean-François Civadier, à propos d'un spectacle qui tourne encore en ce moment, La fin de Louis, ça ira, sur la Révolution française et sur la possible participation, prise de parole des spectatrices et des spectateurs. Il y a un moment donné dans le spectacle, le texte que vous mettez en scène d'Ibsen, où vous le disiez tout à l'heure, la réunion publique qu'organise Peter Stockman pour qu'enfin soit dite la vérité aux gens tourne à une réflexion.
Thomas Stockman, le
Thomas
docteur.
Stockman, oui, oui. Bien, ah ouais. Tourne à une réflexion sur le théâtre où nous sommes dans des fauteuils. Et d'un seul coup, la masse molle des citadins et des citoyens devient la masse molle des spectatrices et des spectateurs. Le soir où j'étais là, il y a une seule personne qui s'est rebellée, tout doucement. Mais quelle est votre position à vous en tant que metteur en scène? On entendait Joël Pommerat dire, bon, finalement ça n'arrive pas parce qu'en fait je ne laisse pas exactement l'espace pour que ce soit possible. Qu'est-ce qu'il en est de vous?
Oui, je pense d'ailleurs, je reviens sur le spectacle de Pommerat parce que je l'ai vu il y a 3 semaines et j'étais évidemment frappé par la similitude de ce qui se passe dans notre acte 4 et puis de ce qui se passe dans tout au long de son spectacle, parce que, et encore une fois, ce que j'aime bien dans le spectacle de Pommerat, c'est ce rapport entre l'acteur et l'effort de la parole politique.
Ouais, pour ça, parole, on est dans une assemblée qui est en train de devenir l'Assemblée nationale, et donc les députés échangent depuis la salle, la scène, et ça circule.
Avec cette chose magnifique que Louis XVI, dans son spectacle, ne parle pratiquement jamais. Enfin bon, voilà.
On y reviendra, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui ne parle pas beaucoup dans votre spectacle, voire pas du tout.
Oui, tout à fait. Non, là, dans le quatrième... Bah, effectivement, nous, on ne s'attendait pas du tout à ce que... Moi je n'avais même pas trop envie que les spectateurs parlent, parce que j'aime pas trop enfin, ça peut paraître bizarre, hein, vu certains spectacles que j'ai faits. J'aime pas trop manipuler le spectateur. J'aime pas lui demander de participer s'il a pas envie de participer, etc.
Là, il y a quelqu'un qui monte, hein, sur scène, qu'on va chercher dans le public, quand même.
Oui, mais justement, c'est intéressant parce que avec Nicolas Bouchaud, on a eu beaucoup de discussions là-dessus parce que lui, il était pas. Enfin, on a eu beaucoup de doutes sur l'idée de faire monter quelqu'un sur le plateau. Moi, je voulais vraiment le faire parce que je voulais vraiment montrer qu'au début du deuxième acte, le docteur Stockmann n'est pas du tout en train d'être parti dans une pièce politique, mais il est vraiment comme un petit médecin de province, un homme de la société civile, voilà, qui fait son métier de médecin, qui pense avant tout à ses malades et qui ne se rend absolument pas compte de la tempête médiatico-politique qui va déclencher, et que c'est vraiment le journaliste Hofstadt qui vient le tirer de, enfin, l'essayer de le séduire au sens détourné de son chemin, etc. Oui, on fait ça, effectivement. Et, mais bon.
Vous faites voter le public. Est-ce que le médecin est un ennemi du peuple ou pas?
Voilà, mais ça, on est un peu obligé de le faire parce que si on fait pas, si c'est pas la salle qui se déclare contre Stockmann, il n'y a pas de cinquième acte. C'est-à-dire que effectivement, il devient un ennemi du peuple à la fin du quatrième acte parce que l'ensemble de la population vote contre lui. Donc ce vote, on était obligé de le faire. Après, on s'est dit que, moi, je me suis dit qu'il fallait faire voter les gens, mais en respectant leur place de spectateur, on n'allait pas leur demander d'écrire un truc ou de lever la main, etc. Donc, je me suis dit qu'il fallait trouver une chose pour qu'ils puissent voter sans rien faire, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on propose que ceux qui sont qui pensent que c'est un ennemi du peuple doivent rester assis.
Mais d'aucuns se lèvent. Certains se lèvent.
Ah mais en général, 80% de la salle se lève. Enfin, en province, en tout cas, et là, à l'Odéon, quand même, beaucoup de gens aussi se lèvent. On s'y attendait pas du tout. Alors évidemment, c'est un peu un vote manipulé, mais c'est aussi un jeu avec le public, quoi. Je sais plus du tout la question que vous me posiez au départ, en fait.
Quel était votre rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que ce moment où on se demande justement ce que c'est qu'une assemblée composée de public, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est que leur donner la parole ou le choix?
Non, on était très inquiets de savoir comment on allait travailler cette partie-là, parce que c'est totalement évident aujourd'hui que si on monte un ennemi du peuple, c'est quand même assez évident qu'on va casser le quatrième mur et faire en sorte que les acteurs s'adressent directement au public. Mais nous, on se méfiait un peu de cette évidence et on n'avait pas envie de faire ce qui n'est pas en fait dans la pièce, c'est que c'est pas du tout un débat. C'est qu'il est venu pour faire une conférence et qu'au bout d'un moment, il va couper la parole à tout le monde et la monopoliser, etc. Voilà. Mais moi, je suis. Le rapport que dans mon travail, j'essaie d'installer avec le public, c'est surtout l'idée d'une chose ludique qui s'échangerait entre l'acteur et le spectateur, où ils sont à deux en train de construire ensemble le temps de la représentation. C'est-à-dire que l'imagination du spectateur est un moteur énorme dont l'acteur a besoin pour continuer à jouer. Si le spectateur n'est pas là en train de faire travailler son imagination, le spectacle a peu de chances de tenir le coup, quoi.
Il y a une grande critique justement de cette manière de s'enivrer de la parole et de laisser lointaine une juste cause pour ne devenir que sa propre ivresse, d'une certaine manière, ce qui est le cas du docteur. Et puis il y a quelqu'un qui se tait, c'est quelqu'un dont on oublie tout le temps le nom, c'est la bonne, la femme de ménage de la maison, mais qui est sur le plateau, Jean-François Sivadier. Ouais, ouais. Et il y a quelqu'un qui parle, mais qui parle un peu moins, qui est la femme du docteur. Ouais. Et puis il y a la fille, qui, pareil, elle aussi, une quantité de paroles bien moindre. C'est un des axes de cette pièce. C'est la silencieuse place des femmes et le silence complet des femmes au service d'eux.
Ouais. Alors, il y a l'histoire de la bonne, dont il ne se souvient pas le nom. J'ai commencé à comprendre cette histoire quand, en fait, je me suis aperçu que dans Maison de poupée aussi, Ibsen, le mari de Nora ne se souvenait jamais du nom de sa bonne. Je me suis dit, tiens, c'est quand même un signe. Donc c'est vraiment, à mon avis, pour marquer l'aveuglement de ce type qui, il y a quelqu'un, voilà, un être vivant qui travaille chez eux, qui vit avec eux et tout ça, dont il ne se souvient plus du nom. Donc c'est vraiment une espèce de
et dont la désignation se dégrade au fur et à mesure de la pièce pour qu'elle ne devienne plus que, je ne sais plus quelle est l'expression finale.
Une fille au visage noir de suie. Alors Éloi Recoing, le traducteur, disait que c'était intéressant d'imaginer que Stockman, en fait, avait carrément peur de la bonne, que pour lui, cette fille était le diable et donc un personnage silencieux comme ça qui erre dans la maison et
la révolte qui sourd.
Pourquoi pas? Absolument. Ouais. Et en ce qui concerne la mère et la fille, moi je me suis demandé comment c'était possible qu'un auteur qui a quand même écrit des rôles comme Hedda Gabler, Madame Alving dans Les Revenants, Nora dans Maison de Poupée, etc., était aussi misogyne dans cette pièce d'Un ennemi du peuple.
Ou tout l'inverse. Ou peut-être c'est un grand féministe qui démontre par leur silence combien la parole peut-être est raptée par les hommes qui sont en train de gérer le pouvoir.
Exactement. Ah ben là, vous me... Non, mais c'est vrai.
Ibsen féministe.
Ça me fait du bien de penser. Hypothèse. Non, mais c'est vrai. En tout cas, je me suis dit que à chaque fois que... Stockman témoignait de sa misogynie, etc. Il se discréditait d'un coup. D'ailleurs, c'est assez drôle quand il dit à sa femme « Va t'occuper de ta maison et laisse-moi m'occuper de la société », la réaction des gens qui est un peu outré, un peu scandalisé, en même temps, voilà, on entend bien qu'à ce moment-là, tout le monde se dit « Ce mec est quand même un très très léger, quoi ».
Ça n'a pas empêché Donald Trump d'être élu.
Oui.
Un ennemi du peuple, Eric Ibsen, vous le mettez en scène en ce moment au Théâtre de l'Odéon. Jean-François Civladier, merci beaucoup. C'est jusqu'au 15 juin et on a donné toutes les villes brillamment. En début d'émission, vous n'avez plus qu'à réécouter. Vous voulez le refaire?
Non.
Les comédiens et les comédiennes. Générique. À vous.
Alors, dans la distribution, il y a Jeanne Lepers, Agnès Sourdillon, Cyril Botorel, Cyprien Colombo, Sharif Andoura, Stéphane Butel, Vincent Guédon et Nicolas Bouchot, et à la collaboration artistique Véronique Timsit.
À la prise de son ce soir, c'était Manuel Couturier. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Lou Quevauvillier, Romain Debec de Lièvre, Valentin Rémy, Jeanne Aléos et Marianne Chassor qui mettent à penser et préparer cette émission tous les soirs. Dans un instant, c'est le journal 22h sur France Culture. Quand vous voulez, franceculture.fr à la page de Parler Temps qui court pour toutes les informations et le lien vers le podcast. Très belle soirée, à demain.
Qui colle à tes bottines, qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils du soleil et du vent. Et du ciel, un ange gardien du néant, un grain de poussière, infiniment petit ou grand.